Il est 19h.
RTBF Mobile Info.
On retrouve Olivia Rox pour l'inforoute. Bonsoir Olivia.
Bonsoir Dominique, bonsoir tout le monde.
Il semble qu'il y ait un accident sur la Nationale 942.
Oui exactement, deux véhicules qui entravent totalement la chaussée. C'est à hauteur de Gève, donc chaussée fermée dans les deux sens, aussi bien vers Aiguezé que à moi. Une déviation locale a bien entendu été mise en place. On a un cadavre d'animal, de renard plus exactement, sur la N89 à hauteur de Tenneville en direction de la Roche. En Ardennes, la situation est particulièrement dangereuse. Soyez prudents à son approche. Et puis je préviens également que le service public de Wallonie passe en phase de vigilance routière renforcée. En fin de soirée, début de nuit, on attend quelques chutes de neige pouvant donner un cumul de 1 à 4 cm en fonction de la localisation et surtout des pluies verglaçantes qui sont possibles jusqu'en début de matinée. Ce sont principalement les provinces de Liège et de Luxembourg qui doivent craindre ces conditions glissantes. Mais bien sûr, aucune région n'est à l'abri. On demande à tous les usagers d'éviter les déplacements non nécessaires durant cette période.
Vos messages mobilité 0800 48 400.
Votre émission avec Diamante, carottage, sillage, ponçage du béton, soutien de la Belgian Motorcycle Academy.
Classique 21. Classic 21. You Rock.
Mike and the Mechanics, Over My Shoulder.
Classique 21, sport moteur.
avec Dominique Dricot.
Bonsoir, bienvenue dans notre émission consacrée à l'actualité. Évidemment, l'actualité des sports mécaniques, c'est forcément ce Dakar. Après le prologue hier, la première étape de 413 km aujourd'hui autour de Bichat, en Arabie Saoudite, évidemment, elle a permis d'établir une première hiérarchie du côté des voitures. C'est l'américain Seth Quintero sur Toyota qui s'est imposé devant la Mini de Guerlain Chichrit. L'équipe Toyota frappe fort en prenant les premières, 3e et 7e places du top 10. Guillaume de Mévius sur Mini est 9e. Sébastien Loeb et Fabien Lurquin sur le nouveau Dacia Sandrider sont à la 24e place. Et puis quand on a croisé Jean-Marc Fortin, le patron de l'Armada Toyota, on lui a demandé comment ça se passe le réveillon de la Saint-Sylvestre au milieu de nulle part en Arabie Saoudite.
C'est assez simple parce qu'on est déjà un peu focus. Tout le monde reste en bivouac parce que comme c'est un bivouac maintenant, ça s'appelle camp zéro, donc personne ne bouge. Deux, trois ont mis un peu de pétards ou de fusées dans les conteneurs, mais rien de bien spécial. Les camionneurs ont été un peu bruyants, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais c'est assez gentil, ça va se coucher tôt, il n'y a personne qui fait la fête, évidemment, vu que, un, il n'y a pas d'alcool, et puis deux, c'est pas le moment d'être dans le festif, et donc, c'est assez gentil, parce qu'on a un objectif qui est le départ. Le 3, il y avait le prologue, donc c'était un truc important à se focaliser. Maintenant, on est en pleine course là. Oui.
C'est une légende alors, parce que j'ai entendu que dans certains camions, on changeait l'eau, par exemple l'eau des essuie-glaces, en vin. C'est une légende.
Non, c'est complètement une légende. Je suis catégorique. J'ai jamais vu ça et je ne le verrai sûrement jamais. Donc parfois, on est souvent. L'alcool très très fort peut rendre aveugle. Hein, donc c'est quelque chose de très important. Donc non, c'est vraiment une légende.
Qu'est-ce que vous allez dire à Guillaume de Mévius quand vous allez le croiser dans le bivouac ?
Bonjour, c'est tout.
Ok, très bien. Vous êtes combien au total dans l'équipe Overdrive sur place ?
On a à peu près 120 avec beaucoup de corps de métiers différents. Mais oui, maintenant c'est vitesse de croisière, 120 personnes. Chaque année c'est la même chose. Donc tout le monde sait ce qu'il a à faire. C'est important de dire qu'on a beaucoup, beaucoup de monde qui reviennent chaque année maintenant sur le Dakar. Très peu de nouvelles têtes. Donc on est focus sur une équipe soudée et on est focus sur le travail.
Combien de Toyotas y a-t-il dans le bivouac, sachant que certains ont acheté des voitures chez vous, mais en tout cas, combien de voitures sont passées par chez Overdrive ?
Il y en a 18. Donc il faut savoir que même les clients privés ont un support technique Overdrive. Donc on a des ingénieurs qui sont dans l'équipe des 120, justement, qui sont délégués à tous les jours à aller voir. Relever les datas, analyser les performances, donner les conseils de setup. Et ces gens-là aussi ont un accès aux pièces détachées et aussi au service de T5 sur la piste. Donc il y a deux camions qui remplissent le rôle de Saint-Bernard qui dépannent au cas où il y aura un problème. Mais une Toyota ne tombe jamais en panne de toute façon.
C'est bien connu. Alors, il y a évidemment des mécaniciens, des ingénieurs, mais est-ce qu'il y a aussi des gens qui, entre guillemets, n'ont rien à voir avec la mécanique et qui sont dans votre team ?
Oui, ça va déjà... d'un conseiller FIA technique et un conseiller FIA sportif. Donc c'est une personne qui lit tous les règlements, qui a aussi un briefing avant le départ avec les copilotes et qui remplit vraiment ce rôle. Je vais dire, avant, il y avait dans les grandes équipes comme Mitsubishi et comme Volkswagen, il y avait un avocat carrément. Là, ça remplit ce rôle-là. C'est très technique, juridique et analyse sportive. Mais ça, c'est une personne. Après, bon, 4 cuistots, 4 kinés, un médecin, des truckies, un camper manager. Ça, c'est nouveau, ça. C'est quelqu'un qui s'occupe de brancher tous les motos, parce que je pense qu'on doit en avoir une trentaine pour tous les équipages. Donc, imaginez-vous... le nombre de pilotes, copilotes qu'on a dans le team. Et donc, ces gens doivent être, quand ils arrivent le soir, rentrer dans leur camper directement. Tout est branché. La clim tourne déjà depuis 2 heures. Et c'est des petites choses maintenant qu'on a mises en place. On a aussi l'équipe logistique sur place. Les logistiques pures qui sont dans tout ce qui est mouvement camion et mouvement véhicule, parce que je pense qu'on va en avoir une quarantaine. plus maintenant les logistiques qui font démonter et remonter les bivouacs. Donc ça, c'est vraiment une équipe à part. Ils travaillent très tard parce qu'ils démontent très tard la nuit. Et ces gens sont une grande aide maintenant, mais on est obligé parce que le bivouac, je pense qu'il fait 60 mètres sur 150 mètres.
Pas mal, en effet. J'imagine que vous dormez peu pendant un Dakar.
Ouais, ça va. Ouais, un peu de gestion humaine maintenant. Je pense que j'ai promis à certaines personnes de dormir minimum 6 heures par nuit. Ça, c'est important. Et je crois que, voilà, comme je l'ai dit, l'équipe est rodée, tout le monde sait ce qu'il a à faire. Donc, voilà, j'essaie d'aller dormir vers 11h, 11h30 et de me lever vers 5h, 5h30 pour repartir le lendemain. Mais voilà, essayer d'avoir 6h, ce sera un leitmotiv.
Bien, bonne course.
Merci beaucoup.
On écoutait Cream, Eric Clapton bien sûr, Strange Brew. Allez, on continue à parler du Dakar, évidemment, du côté des motards cette fois. Cet après-midi, c'est l'Australien Daniel Sanders qui a signé la victoire sur la KTM officielle. Ricky Brabec sur la Honda a fini deuxième, mais à 2 minutes 22 secondes hein, sur 413 km, c'est pas mal. Et puis Ross Branch sur la Hero est à 16 secondes du deuxième, voilà qui promet. Du côté belge, Jérôme Martini, qui est notre seul représentant chez les motards, il s'est classé 52e. Il a connu pas mal de soucis, notre ami Jérôme. Une fuite à l'un de ses réservoirs d'essence, puis un amortisseur qui perdait de l'huile. Jérôme, comme l'an passé, est engagé en Malmoto. Il est le seul à pouvoir faire la mécanique sur sa machine dans le bivouac. Il possède juste un grand coffre et précisément, on lui a demandé ce qu'il mettait dans cette malle.
Oui, donc c'est une malle comme une malle de l'armée où on met toutes nos affaires pour faire la mécanique, les outils et un peu de pièces de rechange.
Ça doit être un fameux casse-tête quand même que d'imaginer ce qu'on doit mettre là-dedans, ce qui est impératif de mettre et ce qui n'est pas indispensable.
Oui, c'est sûr qu'elle va être un peu moins lourde que 2024 puisque là je sais ce que j'ai besoin. C'est clair qu'il manquera certainement une pièce ou l'autre que je n'aurai pas, mais bon, ça c'est pas grave. on trouvera ce qu'il faut sur place. Et voilà, donc j'ai mis vraiment le nécessaire et j'ai comblé les trous avec deux, trois autres choses, comme une paire de bottes, par exemple.
Est-ce qu'on met aussi des objets personnels, des photos, peut-être une relique ou l'autre?
Oui, ben, sur le couvercle, quand j'ouvre le couvercle, j'ai un petit pense-bête pour me rappeler tout ce que je dois faire sur la moto. Et ben, j'ai deux, trois photos de la famille, comme ça, je les vois tous les jours.
Vous avez un rituel avant de démarrer une spéciale?
Non, non, j'ai pas de rituel, ou j'en fais peut-être un, mais sans m'en rendre compte, non, non. J'ai peut-être un rituel, c'est de préparer toutes mes affaires de la même manière dans ma tente tous les jours, comme ça, quand je me lève le matin, je commence par m'habiller, je sais par quoi je commence, toujours... les chaussettes, les genouillères, pantalons, puis le dessus, et voilà, c'est peut-être ça mon petit rituel.
Alors revenons à la malle, forcément, vous êtes sur la piste, mais la malle, elle va d'un bivouac à l'autre, comment?
Mais là, il y a plusieurs semis, il y a deux semis, maintenant je pense même qu'ils ont une troisième semis, donc pour les malles moto, donc Original by Motul, et ils transportent toutes nos affaires via ces semis-là.
Quelle est votre ambition sur ce Dakar, sachant que vous avez terminé 25e de la dernière édition?
Si je pouvais re-signer pour faire le même, je le ferais direct. On va essayer de faire aussi bien. Maintenant, on ne sait pas le dire à l'avance. Si moi, je gère aussi bien que 2024, le résultat sera certainement similaire. Maintenant, il faut voir ce que les autres vont faire. Hein. Moi, je profite des abandons, des problèmes mécaniques et de chutes, malheureusement. Mais je profite de tout ça pour remonter dans le classement. C'est ma force, hein, je vais dire. C'est d'être régulier. Donc, on verra si cette année, il y a encore beaucoup d'abandons ou pas. Mais si on passe déjà la ligne d'arrivée, hein, comme je le dis toujours, ce sera déjà une belle victoire. Et que je fasse 25 ou 30, ça ne changera rien pour moi. La fête, ce sera la même. Et en mal, on va essayer quand même d'aller chercher un petit podium. Mais on verra comment ça se passe. Si j'ai un petit problème dès le début, je vais être un petit peu éloigné du podium. Donc on verra comment ça se passe pour le podium mal, mais on fera tout en tout cas.
Difficulté supplémentaire, non seulement vous allez faire la mécanique vous-même, mais vous devez aussi gérer beaucoup plus les pneus que par le passé.
Oui, donc on a une petite parenthèse en plus cette année, c'est qu'ils nous ont rajouté un règlement comme quoi on n'a que 6 trains de pneus, donc que en mal moto, hein. Donc les autres pilotes eux, peuvent changer tous les jours. Nous, on a droit qu'à 6 trains de pneus. Donc oui, il va falloir gérer pas mal les pneus. Donc ça, c'est un petit stress en plus qu'on n'avait pas l'année passée. Donc j'espère ne pas déchirer de pneus assez tôt dans la compétition pour pouvoir rouler 3-4 jours avec un pneu arrière. Mais ça va être très compliqué. Mais ouais, je pense qu'on a beaucoup de spéciales avec du sable, donc ça doit être faisable. Mais il y en a un ou deux qui vont devoir rouler au moins 3 jours. Donc on va voir comment on gère ça.
On rappelle, vous êtes pompier professionnel. Est-ce que vous êtes spécialement entraîné pour ce Dakar?
J'ai fait la même chose que 2024. Beaucoup de fond et d'endurance. Mais je ne fais pas vraiment un entraînement particulier. Je n'ai jamais fait ça de ma carrière. Je m'entraîne comme moi je le veux, comme j'ai envie et ce qui me semble mieux.
Show. I only saw 20 sour bar when you said that we got to.
Les Pixies, You Are So Impatient. Alors, on va toujours dans le sable, mais cette fois du côté africain, précisément tout au fin fond du Maroc. On rejoint Nicolas Charrier, un des participants belges à moto qui dispute l'Africa Race. C'est cette course qui roule dans les traces de Thierry Sabine, hein, le créateur du Dakar. Et on parie que Nicolas a la banane ce soir. Bonsoir Nicolas Charrier.
Bonsoir Dominique.
Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez la banane?
Oui, plutôt, oui. Je ne m'attendais pas à ça ce matin en me réveillant.
Ah, c'est ça, hein, on va préciser aux auditeurs pour la première fois. Bon, déjà, c'est votre deuxième participation à cette épreuve qui est très compliquée, hein, qui est exactement un copier-coller de ce que le Dakar est du côté saoudien, puisque vous êtes vraiment sur les traces du Dakar de l'époque. Et c'est votre deuxième année seulement, et vous venez cet après-midi de signer le meilleur temps chez les motos. Je suppose que ça fait un immense plaisir.
Oui, c'est tout à fait incroyable. Franchement, j'aurais pas cru. Ici, maintenant, voilà, grâce à un concours de circonstances dans la spéciale, je peux gagner l'étape aujourd'hui. Donc, évidemment, j'ai la banane. Je ne réalise pas trop. J'ai regardé 5 fois le classement tout à l'heure pour être sûr que ce soit bien. Ouais.
Ah, ça donne.
Mais voilà, c'est que du bonheur.
Oh, j'imagine. Hein, ça donne la chair de poule, en tout cas. Hein. Franchement, c'est formidable. Parce qu'on rappelle, hein, vous êtes un pur amateur, évidemment. Vous disputez une course de temps en temps. Hein, c'est pas votre métier, bien sûr. Et quand vous parlez de circonstances particulières, c'était quoi précisément ces circonstances?
Bien, en fait, hier, j'avais pas trop mal roulé non plus. J'avais fini 4e de l'étape grâce à une bonne navigation.
Oui.
Et donc, ce matin, je partais 4e dans la spéciale, derrière Alessandro Botturi, Jacopo Cerutti et Paolo Ulivalsetter, qui sont tous des pilotes assez expérimentés.
Bien sûr.
Et en fait, au kilomètre 127, je suivais plus ou moins les traces qui étaient devant tout en essayant de faire ma navigation. Et puis, il y avait... à ce kilomètre 127, je vois ces trois traces de moto qui partent plus vers la droite, au cap plus ou moins 230, et le roadbook disait 200, et on devait passer entre deux tas de cailloux. Donc j'étais pas trop d'accord, et là, il y a un gros dilemme qui s'est posé à moi. Est-ce que je suis les traces des pilotes expérimentés,
bien
ou
sûr.
J'essaye un petit peu de faire comme je pense et comme j'avais lu le roadbook, et j'ai finalement décidé de quitter les traces et aller rejoindre la piste que je pensais à 500 mètres sur la gauche. Alors après, pendant les 20 km, du coup, je me suis retrouvé le premier dans la spéciale, donc j'ouvrais la spéciale et j'étais inquiet parce que est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas. Puis je suis arrivé au contrôle de passage numéro 1 et là, on m'a dit que j'étais la première moto, donc je me dis, finalement, j'ai fait le bon choix, j'avais raison. Et puis j'ai fait donc du kilomètre 327 au 431, j'ai ouvert la piste, donc j'étais tout devant, il n'y avait pas de trace devant, donc j'ai dû faire ma navigation tout seul et malgré ceci, j'ai réussi à gagner l'étape quand même. Donc voilà, c'est super.
Et comment c'est super? C'est extraordinaire même parce qu'on insiste, hein, vous n'avez quand même pas beaucoup d'expérience. Et puis, par définition, quand on est seul dans le désert et qu'on doit faire tout seul sa navigation sans trace, il faut oser quand même. Donc, bravo à vous. Est-ce que ça vous donne envie? Bon, on sait, hein, demain c'est la journée de repos. Vous allez attaquer la Mauritanie qui est un très très gros morceau. Mais est-ce que ça donne envie d'avoir des ambitions plus grandes que celles que vous aviez au départ?
Pas du tout, parce que comme tu l'as dit, Dominique, je suis venu en tant qu'amateur totalement. J'ai un travail à côté, donc j'essaye de ne pas prendre trop de risques. Et mon rêve, c'était d'arriver à Dakar. J'ai pu le vivre l'année passée. Et quand on y a goûté, j'ai voulu repartir cette année une fois de plus. Donc c'est vraiment mon objectif d'arriver une deuxième fois à Dakar cette année-ci.
Oui.
J'essaye toujours de faire le mieux que je peux. Et si voilà, ça s'est super bien passé. Mais j'ai vraiment pas envie de me dire... d'essayer de rouler au-dessus de mes capacités pour essayer de faire mes résultats. Maintenant, quand je le sens bien et que je me sens bien sur la moto, je fais mon possible, mais j'essaye de rester raisonnable. Donc non, ça ne change pas mes objectifs.
Mais c'est d'autant plus beau, franchement, c'est d'autant mieux comme ça. C'est une moto, le soir, vous en occupez vous-même ou vous avez une équipe autour de vous?
Non, j'ai vraiment la chance d'être super bien entouré. Donc, je suis ici dans le team Yamaha, Ténéré Spirit Experience, donc qui est le team officiel Yamaha, avec les deux pilotes officiels. Donc, c'est Alessandro Botturi et Paul Tarès. Malheureusement, Paul Tarès s'est blessé début de semaine, ne roule plus là pour l'instant. Mais ça me permet d'être dans l'équipe officielle. Donc, on est vraiment entouré de plein de personnes qui prennent soin de nous, qui s'occupent de la moto le soir, qui nous donne les informations de roadbook pour la journée, enfin voilà, qui installe nos tentes. Donc c'est vraiment la meilleure organisation que je peux rêver pour le faire dans de bonnes conditions, et c'est aussi ça qui m'a permis de faire un bon résultat aujourd'hui.
Ben c'est très bien, et puis bon, et puis il y a aussi votre pilotage, votre sens de la navigation. En tout cas, je pense, pour connaître un petit peu votre entourage, je pense que votre papa Stéphane doit être très très fier de vous, votre compagne aussi, oui. Le papa de votre compagne, hein, tous ces gens passionnés de moto, et puis votre frère bien sûr, hein, tous ces gens doivent vraiment être très très heureux de ce que vous faites là. On vous félicite, et puis on va suivre ça, et rendez-vous samedi prochain.
Merci beaucoup Dominique, c'est super gentil.
À très bientôt.
Merci. Oui, au revoir. Don't wanna see the stars, don't wanna see the moon, don't wanna see the sun, it rises too soon. Don't wanna see the dirt, don't wanna see the night. Oh, the afternoon, it feels about right.
Amy MacDonald avec un titre de circonstance, Spark. On n'est pas sûr qu'elle parle tout à fait de la même chose qu'en mécanique, mais ça c'est un autre débat. Voilà, il est presque temps déjà de s'en aller sur la pointe des pneus, comme d'habitude. Merci à Alain Mab qui a assuré la réalisation technique de cette émission. N'oubliez pas que dans quelques instants, ce sera Jean-Philippe Lejeune qui va entrer en piste avec un classique 21 live de Derrière les Fagots. Pour ma part, je vous retrouverai demain aux environs de 16h45 avec la chronique moteur. On dressera évidemment un nouveau classement de ce Dakar, puisque commencera cette fameuse étape qui s'appelle étape 48 heures. C'est un nouveau concept qui a été lancé l'année dernière. Les pilotes vont rouler pendant 48 heures entre guillemets non-stop, sauf qu'ils vont être arrêtés la nuit. Et voilà, je suis prêt à parier que des choses vont s'y passer. On vous souhaite une excellente soirée sur Classique 21, bien sûr. Bye bye.
Classique 21, sport moteur, avec Fedemot, Zelos et le moniteur automobile. Proximus présente I got the fiber. Quand mon nouveau projecteur s'illumine fiber. Et lance mon premier cours de sport en ligne. Choisissez votre cadeau avec le pack Flex Fiber, comme un projecteur Samsung pour 99 euros. Vite, ce sont les dernières pièces. Plus d'infos sur proximus.be. Proximus, think possible.